L'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
L'idée que c'est de faire intervenir les gens qui sont, disons, à la pointe de la recherche.
Le sujet est lancé.
Alors la question est
la tête.
Je voudrais savoir s'il y a des dangers à avoir une double vie.
Qu'est-ce que vous entendez par diversité humaine?
Oh, y a, y a.
La tête au carré.
Avec l'université de tous les savoirs.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Tête au Carré, réalisée par Violaine Ballet. Voici tout de suite le menu de l'émission. Dans un instant, nous débuterons avec la chronique de Caroline Tourbe avec Science et Vie. Caroline qui nous parlera aujourd'hui du lien entre la dépression et le cancer. Et puis juste après, nous irons visiter l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort avec l'Université de tous les savoirs. C'est le dossier de La Tête au Carré. J'ai retrouvé sur place il y a quelques jours les élèves de première S du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. Ensemble, nous avons rencontrer Valérie Chetboul, qui est docteur vétérinaire et spécialiste en cardiologie animale. Nous assisterons à une échographie sur Lola, c'est une chienne croisée lévrier de 13 ans qui présente une malformation cardiaque. Valérie Chetboul a mis au point des méthodes très novatrices en matière d'échographie animale, comme vous l'entendrez. Et puis juste après, nous serons avec le docteur Geneviève Hulzelstein, elle est directrice de l'unité de recherche de génétique fonctionnelle et médicale. Elle travaille de son côté sur les souris pour étudier leurs défauts de pigmentation, afin d'en savoir plus sur les cancers de la peau chez les humains. Et puis à la fin de cette tête au carré, nous resterons dans le domaine animal avec Brigitte Patient qui va nous emmener au centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres, un laboratoire CNRS où le chercheur Xavier Bonnet s'intéresse aux serpents qui permettent de comprendre l'évolution et l'écologie des milieux. Nous croiserons sur place des crotales et des vipères. Voilà pour le sommaire de l'émission préparée par Irène Menahem, Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati.
La tête au carré. Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
Et on commence cette tête au carré avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors vous abordez aujourd'hui dans votre chronique le thème du cancer en partant d'une étude qui tente de répondre à cette question. Est-ce que la dépression a une influence négative sur la maladie?
Oui, parce que c'est une opinion assez répandue. Un épisode dépressif, le stress du quotidien, un choc psychologique suffirait à expliquer la survenue de certains cancers. Alors face à cette opinion, il faut poser un premier jalon. Au regard de l'imposante littérature scientifique consacrée à la question, il apparaît clairement que le cancer n'est pas une maladie psychosomatique. Pour autant, le débat sur le lien entre cancer et facteurs psychologiques n'est pas clos, notamment à propos de la dépression. Car des travaux d'horizons divers le suggèrent, associés à une multitude d'autres facteurs de risque, elle pourrait bien agir négativement sur la survenue d'un cancer. Et si les scientifiques le soupçonnent depuis longtemps, les rouages biologiques de ce lien leur échappent encore. Une piste intéressante vient d'être explorée par une équipe de chercheurs de Houston. Ils ont comparé des échantillons de tumeurs de l'ovaire prélevés chez des patientes dont la moitié était déclarée dépressive. Et bien, chez ces patientes déprimées, ils ont remarqué une forte activation d'une protéine connue pour favoriser la croissance des cellules cancéreuses et la dispersion des métastases. Mais leur découverte tient surtout au mode d'activation de cette protéine. En effet, si elle est activée, c'est grâce à la norépinéphrine, une hormone notamment sécrétée lors de la dépression et du stress chronique. Pour la première fois, on pourrait donc tracer le chemin biologique entre les cellules cancéreuses et le bénéfice qu'elles peuvent tirer directement d'une hormone du stress.
Est-ce que cette étude biologique confirme également des observations épidémiologiques ?
Oui, dans les années 90, il y a eu une première méta-analyse, c'est-à-dire qui intégrait toutes les données de plusieurs études antérieures, qui a apporté des conclusions solides sur l'association statistique entre cancer et dépression. En 2008, un chercheur de l'University College de Londres avance qu'une dépression augmente de 30% le risque d'avoir un cancer. À titre de comparaison, il faut savoir que boire un verre d'alcool par jour majorerait de 168% le risque de développer une tumeur de la bouche.
C'est un chiffre important.
Mmh. Alors, le chiffre de la relation entre cancer et dépression, il faut le relativiser aussi parce que les épidémiologistes, ils ont tendance à publier les résultats de leurs études lorsque celles-ci ont des résultats positifs. La méta-analyse qui a été réalisée comportait donc plus d'études montrant un lien statistique que l'inverse. Pour autant, si association statistique il y a, cela n'implique pas nécessairement une relation de cause à effet. Il se pourrait en effet que certains facteurs inconnus prédisposent à la fois au cancer et à la dépression, auquel cas il serait faux d'affirmer qu'une dépression augmente le risque de cancer. En dehors de la piste hormonale dont je vous ai parlé plus tôt, plusieurs études indiquent que l'immunité pourrait être le chaînon manquant entre cancer et dépression. Dès les années 80, des études montrent par exemple chez des femmes fraîchement divorcées que leur taux sanguin de cellules immunitaires est plus faible que dans le reste de la population. Par ailleurs, plusieurs auteurs ont montré que la dépression est associée à une augmentation de certaines cellules impliquées dans la réponse inflammatoire de l'organisme en cas d'infection ou de blessure.
Donc là, Caroline, on voit le rapport entre la dépression et la diminution des défenses de l'organisme. Mais alors, quel est vraiment le rapport avec le cancer ?
On peut le voir clairement dans le cas des cancers provoqués par des agents infectieux, comme le cancer du col de l'utérus lié à une contamination par le papillomavirus ou le cancer du foie associé aux hépatites. Le système immunitaire ne protège pas bien contre l'infection et par ricochet, il permet l'apparition des tumeurs. Pour les autres cancers, c'est plus compliqué. Chez l'homme, des études ont révélé une augmentation de la fréquence de certaines tumeurs chez les sujets immunodéprimés, mais la différence avec le reste de la population est infime. Et d'autres publications, à l'inverse, n'ont rien montré de significatif. Donc pour l'instant, on a d'un côté des études épidémiologiques qui voient une association statistique faible et des études biologiques qui voient un rapport entre état dépressif et immunité affaiblie, et une étude qui fait un lien entre hormones et activation des cellules cancéreuses. Donc en conclusion sur ce sujet, s'il n'y a toujours pas de certitude, il existe beaucoup de pistes intéressantes.
Merci Caroline Tourbe, on vous retrouve très bientôt et en attendant on peut lire Science et Vie.
Au revoir.
Au revoir.
Avec sa main traînante, souvent dans ses cheveux, ou souvent dans ses poches, souvent dans ses cheveux, le regard souvent qui décroche quand il salue. On croirait qu'il s'excuse quand il se moque avant qu'on rétorque. Il nous dit t'inquiète, j'abuse, il est secret, discret mais simple, le cœur ancré à des principes rigides, humbles, dans son code est inscrit. On ne juge pas, on plaint, on ne juge pas et on ne craint que soi. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. Il est pas si sain que ça, il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça, il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non, non, non. Avec ses yeux, il prétend rien du tout. Y'a pas de mérite à dominer les gens quand on s'en fout. Et lui, il court souvent pour éviter de douter. Il court souvent, son corps et lui ne sont pas ennemis. Ils l'ont jamais été, en tout cas il construit. Le type qu'il aime, il fait rarement partie de ceux qui se plaignent. En tout cas il construit, le type qu'il aime, il fait rarement partie de ceux qui se plaignent. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça. Il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça. Il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non. Façon de construire une vie, et il s'est pas privé, il a grandi au gré de ses envies qui l'ont mené vers des mômes et des vacances. L'harmonie de l'évidence, c'est la chance qui perd face à lui. Bien sûr, il y a eu des tonnes de connes qui n'ont pas vu la taille énorme de son âme, et elle l'a pris, lui et son môme, il s'en va. C'est juste sa modestie qu'elle réclame, qu'elle admire, qu'elle déclame. Oh, oh, oh. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça. Il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça. Il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, oh non. Assez parlé de moi, il dirait, les yeux penchés vers le sol. S'il m'entendait, mais il est pas si sain que ça. Il aime bien parfois qu'on le cajole, il est pas contre être l'idole, non, non, non.
L'homme modeste, Ben Mazu sur France Inter. Et nous sommes aujourd'hui avec l'Université de tous les savoirs, l'école vétérinaire de Maison-Alfort, avec les élèves de première S du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévannes. Valérie Chedboul est docteur vétérinaire. Elle nous accueille dans son service de cardiologie et d'échocardiographie. L'échocardiographie, c'est une technique qui permet de voyager dans le cœur pour voir comment il travaille. Nous avons pour consigne de rester discret car Lola, une chienne de 13 ans, nous attend avec son problème cardiaque. C'est le moment d'assister à sa consultation.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à ma classe de terminale.
La tête au carré
avec l'Université de tous les savoirs.
C'est sur France Inter.
Les élèves ont travaillé, réfléchi et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Bonjour, exactement, j'ai une question.
Bonjour le chien. Comment il s'appelle ?
C'est une petite puce qui s'appelle Lola, une petite chienne croisée de 13 ans que l'on suit pour une maladie de valve qui est traitée, qui va bien, mais pour laquelle il faut faire un contrôle tous les 3 à 6 mois.
Une maladie de valve, c'est-à-dire ?
Dans le cœur, vous avez des petits clapets qu'on appelle les valves. Il y en a 4, chez l'homme comme chez le chien. Et une des 4 vieillit très tôt chez le chien. Ce clapet s'appelle la valve mitrale. Et c'est, on va dire, le souci cardiaque majeur chez le chien.
On va commencer la consultation ?
On va commencer, on va la monter sur la table, on va la peser. C'est la première chose que l'on fait, de façon à systématiquement vérifier la dose de médicaments qu'elle reçoit.
Donc elle a 13 ans, hein. C'est un âge déjà assez avancé pour un chien ?
C'est un âge tout à fait respectable, effectivement. Alors c'est un petit bâtard, croisé lévrier, et les lévriers sont tout de même prédisposés à ce type de dégénérescence valvulaire.
On sait pourquoi d'ailleurs ?
On pense qu'il y a un fond génétique. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs gènes en cause. On a une prédisposition sur les chiens de petit à moyen format, c'est-à-dire globalement en dessous de 15-20 kg. 16 kg aussi. Donc avant de commencer l'examen échographique, on fait toujours un examen clinique complet pour vérifier que tout va bien. Donc là, elle a l'air tout à fait en forme, avec des muqueuses bien roses. Elle respire tout à fait normalement. On va recontrôler son souffle. Elle a un souffle connu depuis l'année dernière. Est-ce qu'il y en a qui veulent ausculter, non ?
Alors, je crois qu'il y a une future vétérinaire. C'est Irmina. On va assister à tes premiers pas de vétérinaire.
Alors, normalement, quand on ausculte un chien et que tout va bien, on doit entendre boumta, 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 boumta. Ça, c'est quand ça va bien. Chez cette chienne, je vais te mettre le stéthoscope au bon endroit. Au lieu que ça fasse boumta, tu vas entendre pfta, pfta, pfta.
D'accord.
D'accord ? Le pft, c'est ce qu'on appelle un souffle. On donne une note sur 6. En cardiologie, on donne des notes à tout, aux élèves, mais aussi aux chiens. On donne une note sur 6 au souffle. Et là, on l'entend bien, à gauche, à droite de son thorax. Donc, c'est 4 sur 6.
Tu as déjà eu l'occasion de scuter des animaux, Irmina, ou pas ?
Non, j'ai un cochon d'Inde chez moi, mais... Est-ce que c'est le même procédé pour tous les animaux ou pas ?
Oui, c'est le même procédé, si ce n'est que le cœur n'est pas tout à fait au même endroit si tu prends un chien ou si tu prends par exemple un serpent. Mais sinon, chez le chien, chez le chat, c'est le même principe. Le cœur, tu peux le sentir là en mettant ta main, regarde, pose ta main, voilà.
Je le sens.
Tu le sens ?
Oui.
Alors, ce que tu sens là, c'est le choc que fait le cœur. À chaque fois qu'il se contracte, à chaque fois que les ventricules travaillent, le cœur tape sur le thorax et ça, tu le sens. Dans certaines maladies cardiaques, tu ne le sens plus ou tu le sens trop fort.
Est-ce que là, son cœur bat plus vite parce qu'elle est en consultation, donc un peu plus stressée ?
Alors là, j'ai calculé donc, en l'auscultant 120 battements par minute, ce qui est tout à fait normal pour une chienne de son format et pas vraiment stressée. Il peut arriver que certains chiens de son format soient stressés et dans ce cas-là, tu sais à combien ça peut monter ?
Non.
Ça peut monter à 180 sur certains petits chiens encore plus petits qu'elle, jusqu'à 200 battements par minute. Rien que le stress, ça peut faire plus que doubler la fréquence cardiaque normale.
Et le battement d'un cœur humain ?
C'est variable selon qu'il soit sportif ou non, mais en général, c'est en dessous de 60.
Donc, de toute façon, le cœur d'un animal, et d'un chien en l'occurrence, bat beaucoup plus vite.
Bat beaucoup plus vite, et d'un chat encore plus vite. Plus l'animal est petit, plus la fréquence cardiaque est élevée. Un chat, normal, entre 160 et 200 battements par minute. Et s'il est très énervé, pas content du tout, on peut aller jusqu'à 240, 250. Tu vois ?
Et le cheval, alors, ça sera...
Alors, largement inférieur à 80 ou 100. Souvent, on est à 50, 60. Et si c'est un sportif, encore moins.
D'accord.
Et qu'est-ce que vous avez eu récemment comme animal pittoresque dans cette pièce?
Alors, dans cette pièce, nous avons eu donc un gros python de 11 kilos et nous avons eu de très jolies panthères, notamment une panthère que vous pouvez voir maintenant qui va très bien au jardin des plantes, qu'on a opéré du cœur. C'est une panthère des neiges qui a 3 ans, qui était très fatiguée depuis qu'elle était arrivée à l'âge de quelques mois au jardin des plantes. Et en fait, elle avait une maladie cardiaque grave de naissance. Elle avait le rétrécissement d'une artère qu'on appelle l'artère pulmonaire. Et donc avec un petit ballon, on a dilaté cette artère et là, elle va très bien.
Et pendant que vous me parlez, il y a Lola qui me lèche la main. Donc voilà. Elle n'a pas l'air spécialement stressée quand même.
Non, elle est très très bien sur ses quatre pattes. Voilà. Alors, on va la monter un tout petit peu. Je t'ai pris un gros stéto qui amplifie un peu les bruits. Alors c'est assez lointain, tu vas voir tout de même chez elle. Là, je suis dessus, donc tu le mets dans ce sens-là.
Qu'est-ce que tu entends, Irmina?
C'est un battement très fort.
Oui, tu entends pouta, pouta. Comme un frottement, c'est oui, ça c'est le ça. Souffle. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ce
que Audrey, je crois que tu voulais essayer. Et Marie, ensuite. Irmina, qu'est-ce qui te donne envie, toi, d'être vétérinaire?
En fait, j'adore les animaux. Et depuis 3e, je parlais avec mes parents. Ils m'ont dit, c'est bien de faire vétérinaire, comme ça tu peux travailler avec tous les animaux, tu peux être soigneur.
Tu sais que les études sont un petit peu longues?
Oui, je sais, c'est 5 ans, plus 2 ans de classe préparatoire.
Donc ça t'affole pas apparemment?
Je suis vraiment motivée, j'aimerais bien réussir.
Bon, en tout cas, on va t'encourager. Alors Audrey, à toi.
Alors je remets la tête du stéthoscope. Voilà, tu vas entendre un petit frottement, c'est ça?
Oui. Mais je voulais demander si le frottement est lointain, c'est un bon signe ou...
Alors, c'est sa caractéristique à elle. Elle a un thorax un tout petit peu rond, avec du poumon qui vient s'intercaler entre le stéthoscope et le cœur. Et donc, ça peut un tout petit peu masquer les bruits cardiaques. En revanche, sur des chiens plus longilignes, si on avait la même auscultation, ce ne serait pas tout à fait normal.
Marie, tu veux écouter le cœur de Lola
sur France Inter.
Qui est vraiment très sympa. Hein. Ouais, elle ne bouge pas.
Voilà, tu me dis si tu entends. Je t'ai positionné au bon endroit.
Oui. C'est génial.
Voilà, branché directement sur Lola.
Donc, ça c'est un cœur. Le vôtre est pareil, un cœur en plastique. Hein. Ce que je dis toujours, vous avez déjà vu à l'école le cœur, non?
Oui.
L'anatomie du cœur. Ah, c'est bien. Est-ce que vous vous souvenez que le cœur, c'est comme en politique, vous avez la gauche, la droite, ça vous dit quelque chose? Et c'est comme en politique aussi, c'est bien séparé. Normalement, il n'y a pas de communication quand ça marche bien entre la gauche et la droite. Alors, la maladie de Lola, qui est la maladie cardiaque du chien la plus fréquente, elle se caractérise par une anomalie d'une valve qui est située dans la partie gauche.
Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit que Lola, elle était croisée et que c'était un lévrier. Est-ce que ça change, tout dépend des races ou pas?
Tu as tout à fait raison. Il existe des affections particulières à certaines races. En particulier, donc, chez le lévrier, croisé ou pas, on a une prédisposition pour cette fameuse dégénérescence de la valve mitrale. Alors ensuite, on a d'autres prédispositions, par exemple chez les chiens de très grand format, au-dessus de 30-40 kilos, comme les dogs, dog de Bordeaux, Rottweiler, dog allemand, Doberman, etc. On a une prédisposition, non pas pour une maladie de valve, mais une maladie du muscle du cœur. Au niveau des ventricules, il existe 3 muscles cardiaques qui doivent travailler, qui doivent s'épaissir pour envoyer le sang hors du cœur. Eh bien, dans ces races de grand format, on a une prédisposition pour une dégénérescence, non plus de la valve, mais de ce ou ces 3 muscles-là. Et effectivement, dans ce cas-là, on a un déficit de pompe cardiaque. C'est une maladie très, très grave d'origine génétique dans ces races-là, qui nous occupe beaucoup, puisqu'on fait beaucoup de dépistage précoce, autant que possible, avant que la maladie ne se déclare de façon importante, jusqu'à arriver à l'œdème pulmonaire.
Alors Valérie Chedboul, vous allez donc procéder à l'échographie. Alors on va en parler parce que vous avez mis au point une pratique très intéressante qui a beaucoup simplifié la façon d'intervenir sur les animaux.
Effectivement, on a été les premiers en France à faire de l'échographie classique cardiaque, on va voir ensemble. Ensuite, depuis plus de 10 ans maintenant, on a travaillé sur une technique qui est extrêmement sensible, extrêmement fine, qui s'appelle le Doppler tissulaire. Elle consiste à analyser des petits morceaux du muscle cardiaque, on a dit il y a 3 muscles là, des petits morceaux de 1, 2, 3 mm, pas plus, et sur 1, 2, 3 mm, on sait exactement, sans faire mal au chien ou au chat, puisqu'on ne rase même pas, sans faire mal. On sait sur 1, 2, 3 mm exactement ce qu'il se passe. Est-ce que ça va vite, pas assez vite, trop vite? Dans quel sens ça va? À quel moment? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça se comprime? En gros, on sait tout sur de tout petits morceaux de muscles, et ce sans faire mal, puisque c'est une technique échographique.
Mais là, Lola, vous allez la laisser debout, ou vous allez être obligée de la coucher pour l'échographie?
On serait aux États-Unis, l'animal serait plus volontairement couché. C'est comme ça que j'ai appris il y a plus de 20 ans, quand je suis partie là-bas pour apprendre l'échographie. Et il s'avère qu'en revenant, on a réfléchi tous ensemble dans l'équipe et on s'est dit la position couchée, c'est une position un petit peu stressante pour les animaux. C'est une position de soumission déjà. Et c'est d'autant plus une position stressante que l'animal respire mal. Et il peut arriver qu'un animal cardiaque respire mal parce qu'il a de l'œdème. Et donc, on s'est dit, le mieux, c'est de le laisser debout, dans une position, on va dire, affective, c'est-à-dire contre son maître s'il est là, ou contre un aide. Donc, c'est une position confortable pour lui. Bien sûr, ça change la façon dont on positionne la sonde, dont on a un peu réinventé avec cette nouvelle position-là. On l'a validé, on a montré que c'était aussi fiable, voire meilleur que la position couchée. Et c'est vrai que maintenant, tous nos examens se font dans cette position qui est très, vous allez le voir, c'est très confortable pour le chien et beaucoup moins stressant que la position couchée.
Et du coup, je crois que les éleveurs viennent vous voir parce que c'est une pratique qu'on ne trouve pas ailleurs.
Donc c'est une pratique franco-française qui maintenant commence à se généraliser parce que les Américains viennent nous voir. On reçoit chaque année des stagiaires des États-Unis, de Los Angeles, de l'Université de Cornell avec qui nous travaillons beaucoup parce qu'ils ont compris que c'était tout à fait intéressant de savoir finalement manipuler dans les deux positions. Si un chien est très fatigué, ben on va effectivement l'échographier en position couchée. Si en revanche il est capable de tenir debout, ils ont compris que c'était vraiment quelque chose de tout à fait appréciable.
Donc on vous laisse procéder à l'échographie?
On y va.
Donc là, Valérie Chedboul, on a baissé les lumières et vous avez un écran très important ici. Vous avez des écrans de contrôle.
Oui, on est une école, donc on a souvent beaucoup de spectateurs et on aime bien leur faire profiter de notre passion, c'est-à-dire l'image. Donc on a effectivement un grand écran de très très bonne qualité pour que nos étudiants profitent. L'aspect pédagogique compte beaucoup, y compris pour les propriétaires, pour qu'il y ait une bonne observance du traitement de leur part. On pense que ça passe par une très bonne compréhension de la maladie, donc des images.
Voilà. Est-ce que bientôt on pourra avoir le cœur de Lola en 3D?
On espère bientôt, on attend normalement nos sondes 3D pour bientôt. Alors on va brancher Lola, si je puis dire, on va lui mettre un des électrodes pour réaliser un électrocardiogramme.
Ça ne va pas lui faire mal?
Alors tu vois, non, ça fait pas mal, mais ça, pour nous ça ferait mal parce que tu vois le tissu sous-cutané des humains est beaucoup plus compact et chez le chien, beaucoup plus lâche et tu vois là, elle n'a rien dit. On lui a mis 3 petites pinces crocodiles.
Vous les avez positionnées où les...
L'électrode rouge, tu la vois là, devant l'épaule droite.
Ouais.
Et 2 autres électrodes devant, un petit peu au-dessus des genoux en fait. Alors tu vois ici son électrocardiogramme et tu vois, regarde, ça c'est la fréquence cardiaque. Elle était autour de 120 à l'auscultation. Et tu vois que là, on descend même parfois en dessous de 100. Donc là, vraiment, tu vois, elle n'est pas stressée. Elle est vraiment très, très bien. Alors, ce qu'on va essayer de remarquer, c'est que, voilà, la fréquence cardiaque n'est pas tout à fait la même selon les moments où on la prend. Et par exemple, si je la prends ici, de ce complexe-là à ce complexe-là, on voit que les battements sont assez espacés. Alors que là, clac, clac, ça s'est rapproché. Alors ça, c'est une spécificité du chien qui est tout à fait normale et qu'on aime bien parce que quand ça disparaît, ça n'est pas normal. Le cœur du chien est capable de s'adapter avec sa respiration. Donc quand Lola inspire, les battements cardiaques s'accélèrent, c'est ce qu'on voit là. Et quand elle expire profondément, les battements cardiaques s'espacent. Et quand on a ça chez un animal cardiaque, on est content. Quand le cœur est vraiment très malade, il perd cette capacité de s'adapter avec les mouvements respiratoires. Donc on va mettre du gel sur le thorax de Lola pour aller voir son cœur. Donc la difficulté chez l'animal cardiaque, c'est que, par opposition à l'homme cardiaque, c'est que le format est très différent. On peut avoir des petits chatons qui pèsent 500 grammes et on va jusqu'au Saint-Bernard Terre-Neuve de 80 kg en passant par la Panthère de 50 kg. Donc pour les tout petits animaux, on utilise des toutes petites sondes comme ça pour bébés, quelque sorte. Et avec la grosse sonde qui est là, qui est une sonde très utilisée chez l'homme adulte, eh bien on fait des animaux de grand format, au-dessus généralement de 30 kilos.
Et la panthère, donc animal sauvage, est particulièrement stressée quand vous avez à intervenir sur elle ?
Alors la panthère, là on anesthésie. Sinon, on pose la sonde, on n'a plus de bras.
Ouais.
Donc,
il n'y a pas des muselières pour panthères.
Non. Donc, on est obligé d'anesthésier. Et là, ça se passe très bien parce que quand on les échographie, on fait ça très souvent avec le jardin des plantes. Notre confrère Norin Chai du jardin des plantes, il anesthésie déjà au fusil, hein, la fléchette, au jardin des plantes, et l'animal arrive anesthésié dans nos murs.
Le fait d'anesthésier, ça fausse pas les résultats?
Le fait d'anesthésier ne change pas l'aspect des valves, par exemple. En revanche, va changer la façon dont le cœur travaille. Très souvent, sous anesthésie, on a une puissance de pompe qui est inférieure à ce que tu peux avoir chez un animal vigile.
Le python, lui aussi, est anesthésié ou pas ?
Alors, très souvent, on fait sans anesthésie. On le met sur le dos. En plus, souvent, ils sont malades, donc plus facilement maîtrisables. Ça peut nous arriver d'anesthésier quand ils ont tendance à s'enrouler autour des bras. Et là, c'est moins pratique pour
J'imagine.
Manipuler. Alors.
Donc là, ça y est, on voit le cœur de Lola.
Ça y est, on voit le cœur de Lola. On va essayer de régler pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. On va peut-être lui tenir un petit peu la tête, Amandine. Voilà.
La tête au carré.
Et voilà. Vous voyez ici l'image du cœur. On voit très bien, regardez ici. Est-ce que vous voyez un petit clapet qui s'ouvre, qui ferme ? Qui s'ouvre, qui se ferme. Vous voyez ? Ça vous plaît ? Oui. Alors, ce petit clapet, normalement, on l'a dit tout à l'heure, il doit être fin ou épais ? Fin, comme du papier, c'est-à-dire 1 mm d'épaisseur. D'accord ? Allez, on peut admettre jusqu'à 2 mm, mais en général, c'est autour de 1 mm. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, il y a un battant de la porte ici, un battant du clapet, et l'autre battant là. Qu'est-ce qui vous frappe ? Il y en a un plus gros que l'autre. Bah, très bien. Donc, vous avez déjà fait le diagnostic. Effectivement, quand je mesure, vous voyez, on est quand même à 5 mm au lieu de 1 à 2. C'est ce qu'on savait déjà puisqu'on la suit pour cette maladie-là, cette maladie donc de vieillissement, de dégénérescence de la valve.
Et qu'est-ce que ça peut faire quand les deux valves sont enfin, épaisses ?
Alors, plus l'épaisseur est importante, plus la fuite sera importante, donc plus les risques d'œdème pulmonaire sont importants. Alors, on va aller voir la fuite en couleur. Est-ce que vous voyez ici la petite valve, là où j'ai ma croix, ça correspond à la petite valve fermée, vous la voyez ? Un animal normal, ça devrait être tout noir, pas de couleur. Toute la couleur qu'on voit, c'est le sang qui remonte à contre-courant dans l'oreillette. C'est exactement ce que je vous ai fait entendre au stéthoscope tout à l'heure. Et on voit que cette fuite, elle occupe tout de même plus de la moitié de l'oreillette. Donc c'est pour ça qu'elle est sous traitement. La fuite est globalement stable par rapport à ce qu'on avait vu il y a un an. Donc on n'a pas d'aggravation. Mais ceci dit, vous voyez qu'on la voit très très bien.
Voilà. Donc un an après sa dernière consultation, les nouvelles sont bonnes.
Les nouvelles sont excellentes, ouais. Elle est parfaitement stable.
Quel est son traitement pour terminer ?
Alors pour terminer son traitement, c'est un médicament vasodilatateur pour les veines pulmonaires. Et ce même médicament dilate aussi les petites coronaires. Alors les coronaires sont les artères du cœur. Et si les coronaires sont dilatées, le cœur est très content parce qu'il reçoit plus d'oxygène.
Ben merci beaucoup Valérie Chedboul et merci
plaisir.
À Lola parce que vraiment elle a été incroyable, on a passé quand même de longues minutes ici avec elle.
Et merci aux jeunes, je suis très impressionnée par leurs questions, c'est un plaisir.
Je sens qu'on a plein de futurs vétos là dans la classe.
Plein de futurs vétos, ils viennent quand ils veulent nous voir.
On vous quitte parce qu'on doit filer à l'unité de recherche de génétique fonctionnelle et médicale. Merci beaucoup Valérie Chedboul, merci.
Au revoir.
Ah oui, on a la photo de tous les animaux là, on voit le python albinos ici, les panthères.
Mathieu Vidard.
C'est le chat sans poil, ça.
Sur France Inter.
Mais un dia besta, aqui no meu moncó. Quero fazer contato, engrossar o caldo do mocotó. Descarregar direto pro oco da cabeça. Neurônios descontrolados, é nóis e tá. Quero ouvir compacto, então deixa cair.
Pequena rotina em estilo livre. Tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto com os melhores.
Pronto, preparado? E já! Um, 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 dois, um, dois, três, quatro.
Compacto avec Cœur Humain sur France Inter et nous poursuivons la visite de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Nous allons rencontrer maintenant le docteur Geneviève Hulzelstein, directrice de l'unité de recherche de génétique fonctionnelle et médicale. Elle s'occupe des souris pour étudier les défauts de pigmentation et pour en savoir plus sur les cancers de la peau chez les humains. Je suis toujours avec les élèves du lycée Guillaume Budet de Limeil-Brévan.
Allez-y.
Donc ça sent la souris. Hein.
Voilà, donc on est arrivé à l'unité de recherche de génétique fonctionnelle et médicale avec vous, docteur Geneviève Hulzelstein. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans votre unité ?
Alors dans notre unité, on travaille sur des modèles animaux de pathologies à la fois animales et humaines, avec deux grands axes thématiques principaux, la génétique et la physiopathologie de maladies des carnivores domestiques et en génétique plus fonctionnelle, l'étude des cellules souches, des cellules pigmentaires chez la souris.
Donc vous étudiez, c'est ça, le défaut de pigmentation chez les souris ?
C'est ça. En fait, les mélanocytes, donc les cellules pigmentaires, ce sont des cellules qui sont très intéressantes à étudier en génétique parce que dès qu'il y a une mutation dans un gène qui affecte ces cellules, on voit tout de suite sur le pelage des souris ce que ça donne. Par exemple, je vais vous montrer ici, vous avez une maman qui vous apparaît grise par rapport à ces petits qui sont noirs, vous voyez. Ils ont exactement le même génotype, c'est-à-dire la même composition des gènes, les petits et la maman. Simplement, ils ont une mutation dans un gène qui entraîne un défaut de maintien des cellules souches de mélanocytes. Donc ça donne cette couleur de pelage-là.
Alors tout à l'heure, vous disiez, le problème de dépigmentation chez la souris n'est pas un problème vital. Hein. Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse ?
Alors, il y a aussi que les mélanocytes, quand leur biologie est complètement perturbée, peuvent devenir cancéreux et donner ce qu'on appelle les mélanomes. C'est une maladie, un cancer dont vous avez certainement entendu parler, qui a une incidence croissante dans la population mondiale due à l'exposition au soleil. C'est particulièrement